Est-ce que vous êtes des amoureux de Dieu? Je suis content parce que je vois plusieurs têtes qui oscillent. Oui, oui, je suis amoureux de Dieu. Alors, si tu es amoureux de Dieu, est-ce que tu as bien pris conscience qu'il y a Luc qui t'a écrit une lettre à toi? Parce que là, il s'adresse à Théophile. Théophile, c'est l'amoureux de Dieu. Est-ce que tu as déjà pris ce récit comme une lettre qui t'est adressée d'une manière personnelle? Quand il y a quelqu'un qui m'écrit sur un ami que j'aime, je lis la lettre avec beaucoup d'attention. Parce que je suis toujours intéressé d'en apprendre un peu plus sur mon ami, sur celui que j'aime. Eh bien là, c'est la même chose. Luc a décidé d'écrire sur ce qu'il a entendu de celui que nous aimons ensemble, Dieu. Et alors, il dit bien, il y en a beaucoup qui ont entrepris déjà des récits. Alors, il y a eu beaucoup de publications à l'époque, dans le premier siècle. Tout le monde était tellement content de dire quelque chose sur Jésus, mais vous voyez bien dans nos médias d'aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, que bien souvent il peut y avoir de tout et de rien, ou des choses presque contradictoires dans ce qu'on peut entendre sur le même sujet. Et c'est pour ça que Luc a vraiment pris le temps de poser les affaires, d'aller voir sur le terrain, d'aller voir ceux qui ont vu Jésus, ceux qui l'ont côtoyé, pour avoir, comme on dit, la source première. Et c'est pour ça que son récit a une très très grande valeur. Tout le temps de Noël, nous avons déjà épuré les trois premiers chapitres de Luc, puisque c'était l'enfance de Jésus. Et aujourd'hui, quand nous sommes au début du temps ordinaire, nous reprenons juste l'introduction de ce récit, de cet évangile, et puis nous passons au quatrième chapitre avec le début de la vie active, la vie adulte de Jésus. Alors c'est intéressant parce qu'il est déjà un peu une vedette. Partout, il a déjà fait des miracles, des guérisons, il a déjà parlé de Dieu d'une manière extraordinaire, qu'il y a plein de monde qui le bouge. Et du coup, là, Luc revient avec son retour au village. Imaginez si à Saint-Vincent-de-Paul, il y avait une super vedette de sport ou de... je ne sais pas trop quoi, enfin quelqu'un qui est d'un seul coup connu mondialement. Ah oui, alors on vient faire un petit reportage sur les gens du village. Alors, est-ce que vous le connaissez? Ah, mais oui, c'est le fils de Joseph. Oui, le fils de charpentier. Ah, mais bien sûr qu'on le connaît. On reste avec des clichés. Vous savez très bien ce qui va se passer après. Ce sera pour dimanche prochain. Mais aujourd'hui, comme à son habitude, il vient à la synagogue. Tous les Shabbats, les Juifs se réunissent pour prier Dieu, comme nous le faisons le dimanche, pour célébrer le Seigneur. Il lit un passage de la parole, comme nous le faisons chaque dimanche. Et là, chose particulière, une fois qu'il a fini de lire, il referme le livre et il va révéler quelque chose de très très particulier. Parce que ça fait des siècles que le peuple juif est en attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Ça fait des siècles qu'ils attendent la venue du Messie. Et les paroles que Jésus a lues du livre d'Isaïe, ça a été lu X fois dans les synagogues. Et ça n'a rien changé de particulier. Mais voici le seul petit enseignement de Jésus, ce jour-là. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Enfin, le Messie arrive. Hein, vous voyez bien, quand on est dans une longue attente, vraiment une attente importante, enfin ça arrive, la joie qui vient en nous. Ça y est, c'est le bon dénouement. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Ah, cette parole-là, soit à la sortie d'une messe, soit simplement parce qu'ils prennent la parole de Dieu chez eux, ils disent « Ah, cette parole-là, je ne l'avais jamais entendue. » Ou alors « Ah, combien elle m'a touché, mais vraiment ça m'a touché, un peu comme dans le livre d'Esdras qu'on vient de lire en première lecture, tous ils pleuraient, parce qu'ils ont redécouvert une parole de Dieu. » Il y a bien souvent des paroles qu'on entend sans être attentif, ou tout simplement parce qu'elles ne nous étaient pas destinées à ce moment-là. Et à un moment, il y a une parole particulière qui vient me toucher, qui vient me rejoindre dans ce que je vis sur le moment, aujourd'hui. C'est pour ça que nous ne lisons pas un texte, nous écoutons la parole de Dieu. C'est une parole vivante, actuelle. La question est de savoir si nous sommes en attitude d'écoute. Premier commandement que Dieu demande au peuple d'Israël. Écoute, Israël. Mets-toi au diapason de la parole de Dieu. Enfin, qu'est-ce qui est dit, du coup, dans ce passage du livre d'Isaïe ? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. C'était la promesse du prophète Isaïe que l'Esprit du Seigneur serait sur le Messie. Il serait la parole même de Dieu et la réalisation de son projet. Il dit qu'il faut annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'est marrant parce qu'il y en a deux, c'est « ils retrouveront » ou « il va les remettre ». C'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas aveugles. Avant, ils n'étaient pas prisonniers. Pour que cette parole agisse en nous, peut-être pouvons-nous nous poser la question « qu'est-ce qui m'opprime ? Qu'est-ce qui me rend prisonnier dans mon quotidien ? Qu'est-ce que je ne vois plus ? » Ce n'est pas « qu'est-ce que je ne vois pas », c'est « qu'est-ce que je ne vois plus ?» Avant, je voyais des choses, et à cause d'événements, je me suis fermé. Est-ce que je désire que cette prophétie d'Isaïe soit actuelle pour moi dans ma vie ? Et puis, la toute première que j'ai volontairement laissée de côté, « Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Nous, ici, au berceau de Saint-Vincent de Paul, cette phrase résonne très particulière. Evangelizare pauperibus evangelizare misit me. C'est la devise des lazaristes. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Saint Vincent, pendant longtemps, il a cherché à s'occuper que de lui, pour être bien auprès de sa famille, et c'est tout à fait honorable. Mais vous savez tous qu'en 1617, il y a la bascule. Il va se mettre au service des pauvres. Et il va comprendre qu'en se mettant au service du plus pauvre, on se met au service de Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce si important que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres et non pas à tous? C'est que quand on est avec des personnes qui sont en pauvreté, il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de masque, ils sont cash, direct, ils sont blessés par la vie, par les événements de la vie. Et du coup, comme ils sont blessés, il y a comme une ouverture dans leur cœur. Et alors, ils peuvent recevoir la parole de Dieu. Ils peuvent recevoir la bonne nouvelle qui va les irriguer à nouveau et qui va leur permettre de relever la tête et d'être libérés et d'y voir plus clair. Mais quand on parle de pauvreté ici, il n'est pas question de classe sociale. Chacun de nous peut reconnaître qu'il y a de la pauvreté en lui. Et c'est justement cette attitude qu'il nous faut avoir, reconnaître que je suis pauvre, reconnaître que j'arrive pas à tout, je suis pas au top, contrairement à ce que notre société essaierait de nous faire croire qu'il faut toujours être au top. Non, je suis quelqu'un de fragile. Je suis parfois défaillant. Et c'est lorsque je suis capable de montrer cela au Seigneur, lorsque je suis capable de lui montrer ma propre pauvreté, que du coup sa bonne nouvelle peut venir en moi, en chacun de nous. Il faut faire tomber les masques et il nous faut apprendre à être vrai. Alors à ce moment-là, la prophétie du Christ arrive. Enfin, pour terminer, dans cette semaine de l'unité pour les chrétiens, il nous faut réentendre avec force ce passage de la lettre de Paul aux Corinthiens qui nous évoque le fonctionnement d'un corps. Différents membres, tous importants, tous complémentaires les uns des autres. Comment pouvons-nous comprendre cette diversité du corps du Christ dans les différentes confessions chrétiennes? Comment nous sommes capables de nous appuyer les uns sur les autres pour être témoins d'un seul et unique Dieu? Enfin, puisque Paul nous révèle que nous sommes le corps du Christ et que Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction », cette onction de l'Esprit de Dieu que nous avons reçue à la confirmation nous dit que nous sommes le corps du Christ et que nous avons à mettre en pratique cette prophétie. Alors, avec ferveur, demandons la grâce d'être attentifs aux pauvres qui sont autour de nous, c'est-à-dire d'aller trouver la blessure chez l'autre, pour être en union avec lui, en communion, et être témoin de Dieu qui vient nous sauver.